frères et sœurs, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Maintenant, on passe un grand moment à essayer de réfléchir comment être à table avec le Seigneur. Nous allons maintenant entrer dans son temple, on l'a dit aussi, Cyril en a parlé, avec une méditation que je vous propose sur l'évangile de Jean. Mais je vais attendre qu'il apparaisse sur l'écran. L'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 à 25, un évangile qui déménage. Jean 2, 13 à 25. Voilà, c'est juste après. Voilà. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leurs tables et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs prirent la parole. « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, « je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. » Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en trois jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous, et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Viens nous parler, Seigneur. Ta parole est la vérité. Viens entrer dans nos vies. Amen. Voilà, ce qui peut être l'image suivante. Voilà. Et puis tu l'enlèves. Voilà, la Pâque juive était proche, nous dit l'évangile de Jean, et Jésus monta à Jérusalem. Alors pour nous aussi, maintenant, la Pâque est proche. Dans un mois, ce sera chose faite. Nous ne la fêtons plus au temple de Jérusalem. Notre Pâque en Christ est une Pâque nouvelle, une Pâque transformée par Jésus, la Pâque qui proclame sa mort et sa résurrection. Alors comment fêterons-nous Pâques cette année? L'année dernière, ce n'était pas très drôle. Est-ce que nous serons enfermés, confinés chacun chez soi, comme l'an passé? Est-ce que nous serons dans la peur de la contamination? Est-ce que nous serons dans l'amertume, la déprime ou la révolte devant la situation de notre pays ou de notre monde? Eh bien, frères et sœurs, si nous voulons fêter Pâques dans la joie, dans la confiance, dans l'espérance, dans la certitude que le Seigneur envers et contre tout nous ouvre un avenir radieux, il est nécessaire de purifier nos cœurs et nos pensées. Ou plus exactement, de laisser Jésus accomplir chez nous le travail ingrat qu'il réalisa jadis dans le temple de Jérusalem, le coup de balai qu'il a donné à ce moment-là. Ôtez tout cela d'ici. Jésus s'offre pour faire en nous place nette afin de venir demeurer en nous. Alors ce texte nous gêne un petit peu parce que nous n'aimons pas voir Jésus en colère. C'est vrai. Nous préférons l'image du doux Jésus qui nous conduit dans les bras du Père. Mais alors je pose une question. Sincèrement, voulons-nous aller dans les bras du Père? Nous l'avons chanté tout à l'heure, dans tes bras d'amour. Nous avons chanté que nous voulions y aller. Mais avons-nous vraiment mesuré tout ce que cela représente? Voulons-nous suivre Jésus sur le chemin qui mène à sa maison? N'aurions-nous pas besoin d'être secoués, poussés, bousculés pour oser enfin nous abandonner en vérité par la foi entre les mains de Dieu? Ce n'est pas si facile. Alors Jean décrit au début de son évangile l'énergique purification du temple de Jérusalem par Jésus, pour nous laisser un signe, c'est ce qu'il dit, un signe percutant pour nous préparer à la Pâque du Seigneur. Alors, bien sûr, nous sommes bien d'accord, il n'est pas juste d'utiliser la religion à des fins commerciales, de retirer un profit lucratif de la piété et de l'obéissance des fidèles. J'ai souvent été choqué personnellement, en visitant certaines églises, de voir un étalage de commerce de divers objets de piété dans ces lieux. Et au cours des siècles, beaucoup de chrétiens fervents ont réagi contre une telle pratique. On peut comprendre que Jésus ait été choqué de voir la maison de son père devenue une maison de trafic. Et là, Jésus se situe clairement dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament, de Jérémie par exemple, qui disait déjà: améliorez votre conduite, votre manière d'agir, pour que je puisse habiter avec vous dans ce temple. Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits. Ça, c'est Jérémie 7. Pourtant, très vite, Jean utilise le geste courageux de Jésus pour nous faire comprendre autre chose. Alors que Jésus commence son ministère public, dans le récit de Jean, Jésus vient d'être baptisé par Jean le Baptiste et il vient d'appeler ses premiers disciples. Alors que Jésus donc commence son ministère, cet épisode remuant marque l'inauguration des temps nouveaux. Des temps nouveaux commencent. Désormais, les regards du peuple de Dieu ne se porteront plus vers Jérusalem et vers son temple. Son temple, qui était pourtant même pour Jésus, puisqu'il le dit même ici, le lieu de la présence de l'Éternel, c'était pour Jésus la maison de son Père. Mais les regards se porteront vers le nouveau temple, vers celui qui porte en lui toute la gloire de Dieu, vers Jésus, vers le Fils de Dieu venu en notre chair. Jésus évoque ici sa résurrection. Il parle des 3 jours et il parle du temple de son corps dont il faudra toujours se souvenir. Alors déjà en Jésus, même dans cet événement, commence à se révéler au monde une nouvelle forme de relation à Dieu, quelque chose de nouveau. Dieu est Père, Jésus le dit ici, il est Père. Dieu accueille tout homme. Dieu n'a pas besoin de sacrifices d'animaux, les prophètes l'avaient déjà dit. Dieu est du côté des plus pauvres et déteste ce commerce qui leur barre l'accès à sa maison. Dieu veut que son temple soit ouvert à tous. Dieu en son Fils se montre miséricordieux même envers les marchands et les changeurs. Jésus ne les frappe pas de son fouet, si on lit bien le texte. Sans quoi d'ailleurs, s'il l'avait fait, les autorités seraient immédiatement intervenues contre ce fauteur de troubles. Ses cordes lui servent seulement à chasser les brebis et les bœufs hors du temple. Son arme à Jésus, c'est d'abord sa parole. Jésus exhorte puissamment pour que ces commerçants malhonnêtes changent de comportement et reviennent au Seigneur, et pour que la maison de Dieu redevienne accueillante, redevienne, comme le disait Ésaïe, comme le souhaitait Ésaïe, comme l'annonçait le prophète, une maison de prière pour tous les peuples. Par son geste et sa parole remplie d'autorité, Jésus est déjà, se situe déjà dans l'accomplissement évident des prophéties. D'ailleurs, cela n'échappe pas à ses disciples, même s'ils sont parfois distraits, on l'a vu tout à l'heure, ses disciples qui se souviennent alors, tiltent du psaume 69, verset 10, « Le zèle de ta maison me dévorera ». Même d'ailleurs les autorités juives qui sont présentes à cet événement pressentent que Jésus ne saurait agir de la sorte sans être porteur d'une mission de la part de Dieu. Et effectivement, son geste provocateur dans le temple de Jérusalem est annonciateur de temps nouveau. Un jour, le temple disparaîtra. Ce jour est proche d'ailleurs, puisque l'événement se produira de manière dramatique avec son incendie par les Romains quelques 40 ans plus tard, en l'an 70 de notre ère. Ce sera une catastrophe terrible, inimaginable, pour le peuple de la Bible. Mais alors, à ce moment-là, en 70, depuis plusieurs décennies déjà, les disciples de Jésus, les premiers chrétiens, auront compris le sens de ces paroles de Jésus, qui lui seront d'ailleurs reprochées lors de son procès. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Retenez bien ce verbe, « je le relèverai. » Étrange réponse de Jésus aux autorités juives qui sont choquées par son geste. Étrange parabole que seule la foi des témoins de la résurrection de Jésus pourra comprendre un jour, plus tard. Lui, Jésus, nous dit Jean, comme une petite confidence dans son évangile, lui, il parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva, c'est exactement le même verbe, d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi. Le temple accueillant pour tous les peuples ne sera plus à Jérusalem. Jésus le précisera un peu plus loin. L'heure vient, chapitre 4, l'heure vient où ce n'est pas à Jérusalem que vous adorerez le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parole de Jésus à la Samaritaine. Pour que cela devienne possible, pour que s'écroulent les murs qui nous séparaient de Dieu, il a donc fallu un autre signe, le plus grand des miracles, qui est la mort et la résurrection du Fils de Dieu, sa vie nouvelle, qui a inauguré pour toujours la demeure de Dieu avec les hommes. Jésus annonce ici sa propre destruction, sa destruction dans le seul sacrifice parfait qui rendra inutile tous ceux qui se pratiquaient dans le temple. Sur la croix, l'agneau de Dieu pardonnera les péchés du monde. Et ensuite, la gloire de Dieu se manifestera par sa victoire éclatante au matin de Pâques, quand Jésus se relèvera, par exemple, c'est le terme employé par Matthieu, c'est encore le même verbe, se relèvera d'entre les morts. Le temple ne sera plus à Jérusalem, il sera édifié partout où par la foi et le don de l'Esprit Saint, des cœurs seront habités par la rencontre du ressuscité. Jésus dit, Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Voyez où est désormais la maison du Père, elle est en nous. C'est donc la création d'un homme nouveau. Un homme nouveau. Mais cela ne va pas de soi, parce que le cœur de l'homme est endurci, vous le savez bien. Le cœur de l'homme est davantage enclin à se fermer à la parole de Dieu qu'à s'ouvrir pour l'accueillir. L'être humain, et nous les premiers, recherche ce qui flatte ses sens, ce qui satisfait son intelligence, ce qui lui procure une certaine aisance. Il voudrait un Dieu protecteur, guérisseur, mais pas un Jésus comme celui-là qui bouscule ses sécurités religieuses. L'être humain préfère les miracles, le merveilleux, le sensationnel, à ce Dieu qui se révèle simplement par la foi dans l'humble réalité du quotidien. Et c'est pourtant là, frères et sœurs, dans nos joies et nos misères toutes simples, que Dieu en Jésus-Christ est venu nous rejoindre. C'est là qu'il est présent, heureusement d'ailleurs, parce que ainsi il est présent à tout moment. C'est là qu'il est présent, c'est là que l'Éternel veut être adoré, comme le disait Jésus, en esprit et en vérité. Pendant ce premier séjour à Jérusalem, durant la fête de la Pâque, comme nous dit Jean, Jésus réalise des miracles. En lui, Dieu manifeste sa puissance. En lui, Dieu se révèle. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement, puisqu'il est lui-même le Fils de Dieu? Et d'autant plus que Jésus est pris de pitié. Il a les entrailles qui sont remuées, nous dit textuellement la Bible. Quand les misères du monde viennent à lui, il est pris aux tripes, on dirait, aujourd'hui. Et alors, beaucoup crurent en son nom, nous dit Jean, à la vue des signes qu'il opérait. Mais il corrige immédiatement. Ils crurent, mais ils n'avaient pas la foi. Jésus est sans illusion. Il les connaissait tous. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Il sait bien de quoi nous sommes faits. La foi ne se fonde pas sur le voir, sur le toucher, le sensible. Oui, Dieu, en Christ, habite effectivement le monde réel, mais ce monde réel ne saurait le contenir. Dieu est au-delà. Il est en même temps au-delà, dans le mystère de son infinie grandeur, dans le domaine, comme dit l'apôtre Paul, j'aime beaucoup cette expression, dans le domaine de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Pour le discerner, ce Dieu, pour discerner sa présence, la présence de Jésus dans notre vie, il ne faut pas des miracles, il faut le regard intérieur de Dieu lui-même. Ah, le regard intérieur au-dedans de nous, en nous, de Dieu lui-même. Ouh là là, ça se complique là. L'évangile de Jean parle de signes. Les gestes de Jésus, ses miracles, indiquent que Jésus, oui, il est le temple nouveau. Il est la demeure en ce monde de la gloire du Père. Les signes et les miracles en sont aussi la conséquence. C'est parce que Jésus est le Fils de Dieu qu'il accomplit des choses extraordinaires. Mais, pour le reconnaître en vérité, tenez-vous bien, il faut qu'un révélateur nous ouvre à la révélation. Ah, je suis content, là, c'est pas de moi. Il faut qu'un révélateur nous ouvre à la révélation. La révélation de Dieu, la parole de Dieu, nous dit Jean, c'est Jésus. On est d'accord. Parole de Dieu. La révélation de Dieu, c'est Jésus. Et son révélateur, celui qui nous permet de reconnaître par la foi que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, c'est son esprit. C'est l'Esprit Saint. Voilà le regard intérieur de Dieu lui-même. La révélation, c'est Jésus. Le révélateur, c'est le Saint-Esprit. La purification par Jésus du Temple de Jérusalem annonce aussi la purification de nos cœurs, afin qu'il vienne en nous et que nous puissions à notre tour le reconnaître et croire en lui. Paul écrit même, 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu, le Révélateur, habite en vous. Et par cela même, vous êtes capable de reconnaître au cœur de votre vie la présence de Jésus vivant. » La réalité nouvelle apportée par Jésus, eh bien, c'est la création de cet homme nouveau, un homme qui se sait pardonné, réconcilié, justifié, croyant, sanctifié par Jésus lui-même, qui se sait en la présence du Christ ressuscité jour après jour. Cet homme, transformé par l'Esprit de Dieu, les prophètes même y avaient rêvé. Les prophètes rêvaient en un peuple de prophètes. Les prophètes l'avaient annoncé, Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf, un esprit capable de reconnaître la présence de Dieu, l'amour de Dieu. J'enlèverai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur capable de suivre Jésus. » Alors que sera cet homme nouveau? À quoi ressemble cet homme nouveau? Eh bien, pour le savoir, c'est tout simple. Il suffit de regarder à l'homme nouveau, avec un H majuscule souligné par trois traits rouges, l'homme nouveau, le fils de l'homme, comme il se fait appeler dans la Bible, qui est en même temps le fils de Dieu. Regardez Jésus, le contempler, l'écouter, croire en lui et marcher à sa suite. Le vrai culte, le voilà. C'est celui qui nous tourne vers Jésus, qui le reconnaît grâce à sa présence dans nos vies, qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, qui accueille sa parole, qui accueille son pardon et sa vie nouvelle. Oui, Jésus s'est relevé d'entre les morts. Et il ouvre pour nous, et il ouvre devant nous le chemin de la vraie vie, de la vie éternelle. Je conclus. S'il n'existe plus de temple, on pourrait se demander, mais comment vais-je faire pour honorer le Seigneur? C'était finalement bien commode pour les Israélites. Ils allaient là-bas, ils offraient une petite colombe, un petit agneau. C'était pas très drôle pour la colombe et l'agneau, bien entendu, mais enfin, ça arrangeait parfois bien les choses pour eux. Ça leur convenait assez bien. Mais nous, comment faire? Comment le retrouver? En plus, nous sommes dans un monde qui l'ignore, un monde qui le méprise, un monde qui le cache, qui ne veut pas en entendre parler. Alors par quoi remplacer les sacrifices de colombes, de brebis et de bœufs? Jésus nous apprend que, au verset 22 du texte de ce matin, que lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle Jean a rédigé son quatrième évangile, cet évangile. Ils crurent, ils se rappelèrent ce que Jésus leur avait dit, et ils crurent à sa parole, ils crurent à l'Écriture. Jean dit au chapitre 20 de son évangile, « Tout cela, je l'ai écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, et que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, frères et sœurs, remplissons notre mémoire, notre disque dur, du souvenir de Jésus. Remplissons-nous de l'Évangile. Remplissons-nous du souvenir de Jésus. Et alors, vous verrez, notre esprit, votre esprit, s'unira à son esprit. Son révélateur vous découvrira la révélation et nos cœurs deviendront le temple de sa présence. Amen. Seigneur, renouvelle en nous le don de ton esprit, qui est l'esprit de Jésus même. Seigneur, renouvelle en nous ce miracle quand tu veux faire de nos vies, de nos corps, le temple de ta présence. Renouvelle en nous, Seigneur, le miracle de la foi, qui au cœur d'un monde qui fait tout pour te cacher, nous permet quand même de te reconnaître, vivant, sauveur, Seigneur de notre vie et du monde. Seigneur, que nous puissions, oui, nous abandonner entre tes mains. Seigneur, fortifie notre foi et rends-nous jour après jour la joie de ton salut. Amen.
Message. C'est le temps de clore ce culte. Les personnes qui sont en visio, si vous avez envie de mettre vos caméras pour qu'on puisse voir votre visage et vous saluer. Voilà, je ne sais pas si Courte vous a entendu ce matin, j'espère.